Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Patronne mais pas que. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteure et journaliste d'impact spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échecs. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Patronne mais pas que. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Sandrine Sommer. Bonjour et bienvenue Sandrine.
Bonjour Cyrielle.
Alors tu as trois enfants, deux filles et un garçon. Tu es née en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Tu es la directrice du développement durable de Moët & Cie, qui regroupe, on le rappelle, 25 maisons de vins et spiritueux depuis maintenant presque deux ans. Mais tu es également restée 15 ans dans la maison Guerlain, où tu as notamment été la directrice de la RSE. Et juste avant, tu as travaillé deux ans chez Make Up For Ever. Et encore avant, tu étais chez Moët et Chandon. Alors, on a l'impression que tu es aussi entre l'univers des vins et spiritueux et celui de la beauté. Ces deux univers complètement différents, mais qui te passionnent ?
C'est des univers passionnants, en fait. Donc, effectivement, je suis entre ces deux univers. Et au final, il y a beaucoup de similitudes quand on pense aux parfums, quand on pense aux vins spiritueux. C'est que tout ça est fait avec des métiers de passion autour d'ingrédients précieux, que ce soit les raisins ou les céréales, ou que ce soit les ingrédients, les fleurs ou le miel, pour ce qui concerne la cosmétique. Et donc, en fait, on sublime un ingrédient pour arriver à faire un produit absolument magique, un produit qui fait plaisir. Alors, pour la beauté de soi, quand on parle de cosmétique, ou dans les vins et spiritueux, effectivement, on crée l'art de la dégustation avec nos produits et un moment de plaisir et de partage quand on déguste nos produits.
Et qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais plus jeune, quand tu étais plus petite, justement ? C'était le vin, la cosmétique ou pas du tout ?
Alors, pas du tout. En fait, j'avais envie d'être enseignante quand j'étais plus jeune et je trouvais que c'était un métier formidable pour pouvoir transmettre, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir former la jeune génération. Voilà, donc c'était ça que j'avais envie de faire au départ.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retrouves de cette genèse, de cette envie quand tu étais plus jeune, aujourd'hui dans ton métier, aujourd'hui notamment au sein de ton poste de directrice du développement durable de chez Moët & Cie ?
Finalement, ce que je retrouve, c'est quand même aussi l'envie de transmettre et le besoin et la nécessité de former sur des sujets autour du développement durable. Parce que le développement durable, ce sont des sujets qui sont très, très larges, qui couvrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de périmètres. Et donc, on se rend compte que souvent, il faut vraiment former, transmettre sa passion aussi d'ailleurs, sur ces sujets-là, ses convictions, etc. Donc ça se retrouve un peu.
Alors comment tu arrives à harmoniser, parce que 25 maisons, ça semble très important, 25 maisons de vin et spiritueux, mais il y a quand même un ADN, on va dire un engagement commun par rapport à toutes ces maisons dans ton spectre.
Tout à fait. Donc en fait, l'idée, c'était effectivement... Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant que j'arrive, hein, je tiens à préciser quand même, parce que j'y suis que depuis deux ans, il y a énormément de choses et d'actions qui ont été initiées depuis plus de 20 ans dans certaines maisons d'ailleurs. Donc tout l'enjeu, c'est de structurer et effectivement de donner un engagement commun à l'ensemble de ces maisons et je dirais aussi à l'ensemble de nos marchés, puisqu'en fait on a la chance aussi d'être vendu dans 160 pays dans le monde pour nos beaux produits. Et donc on a un programme qu'on a appelé le Living Souls, Living Together, autour de quatre grands enjeux. Et c'est l'idée est donc de structurer notre engagement autour de la régénération des sols et donc tout ce qui se passe sur les terroirs.
Ça, c'est le trend du moment, on va le dire, hein, dans beaucoup de secteurs. On parle vraiment d'agriculture régénératrice.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un trend nécessaire, hein, j'ai envie de te dire. C'est qu'on a vraiment besoin, tout vient des sols, tout. Notre alimentation, notre consommation, de manière générale, tout vient des sols. Et il se trouve que les sols sont dégradés. Et donc, on a un vrai sujet de transformation, effectivement, de pratiques agricoles, viticoles, pour être encore plus vertueux et régénérer. Donc, c'est un côté positif, la régénération. Ce n'est pas que juste limiter nos impacts. C'est aller un cran plus loin. Donc, régénérer les sols. Donc, ça, c'est un des grands piliers. Mais il y a aussi toute la partie... lutter contre le changement climatique, évidemment, et réduire drastiquement les émissions carbone. Ça, c'est notre deuxième grand pilier. On a un troisième pilier qui est important aussi pour moi, qui est la société, comment travailler un peu plus loin que notre propre intérêt et s'engager pour la société au sens large, avec un sujet qui nous est particulier. On vend de l'alcool, on produit et on vend de l'alcool, donc on se doit de promouvoir une consommation responsable.
Et comment on fait pour promouvoir une consommation responsable ?
Bah, en fait, on axe beaucoup, on a la chance d'avoir des produits très précieux. Donc, on axe beaucoup notre vente aussi autour de l'art de la dégustation et consommer bien, de manière modérée. Enfin, voilà. Donc, et tout l'enjeu aussi, c'est de rappeler quels sont ce qu'on appelle la consommation à risque. Et donc, dans la consommation à risque, c'est pas de consommation avant 18 ans d'alcool, pas de consommation chez les femmes enceintes, pas de consommation au volant et puis évidemment... être dans une consommation modérée pour ne pas aller sur une consommation déraisonnable.
Voilà. Et où places-tu, on va dire, l'enjeu, c'est ton domaine hein, d'expertise, de la RSE à ton poste. Toi, comment tu essayes de parler à toutes ces 25 maisons ? Est-ce qu'il y a des maisons qui sont plus ouvertes que d'autres pour justement en parler ou changer de culture, de méthode de culture ?
Alors, bien sûr, il y a toujours des maisons qui avancent plus vite, mais ça crée aussi, d'ailleurs, une saine émulation, hein, évidemment, entre nos maisons. Mais globalement, on a la chance quand même d'avoir des patrons et des patronnes de ces différentes maisons très engagées et qui ont envie, en fait, qui ont envie. Après, la question, et on l'a souvent, c'est comment ? Parce qu'il y a ce qu'on veut faire et comment on va y arriver, comment on va transformer. Et puis, la question aussi, si je reviens sur la thématique des sols, et qui est valable aussi, d'ailleurs, sur les autres piliers, mais... il faut embarquer nos partenaires. Quand on dit on veut changer nos pratiques viticoles ou agricoles, on le fait sur nos propres terroirs, ceux qui nous appartiennent, mais il faut aussi engager ceux à qui on achète nos raisins ou nos céréales.
Est-ce que lors de vos recrutements, le critère de la RSE, les engagements de développement durable, c'est un critère qui revient ?
Bah, ça revient, et notamment, ça revient souvent de la jeune génération, qui sont de plus en plus demandeurs, savoir ce qu'on fait réellement. Parce que il suffit plus d'avoir un bel engagement dans une entreprise. Hein. Il faut avoir des preuves de concrètement ce qui est mis en place, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on nous demande régulièrement. D'ailleurs, moi, c'est des choses que j'aime bien faire aussi, c'est d'intervenir dans les universités ou les grandes écoles. Très important pour moi aussi de sentir aussi quelles sont un peu les tendances ou en tout cas les attentes de cette génération. Et Dieu sait si ils s'expriment sur leurs attentes, c'est très clair. J'étais avec pour un réveil écologique, hein, le mouvement de ces grandes écoles.
33 000 jeunes à la France.
Exactement. Donc, on les a invités d'ailleurs. C'était intéressant comme démarche. On les a invités lors d'un de nos séminaires des opérations. On les a invités pour qu'ils nous partagent.
Et quel type de questions ils avaient pour...
Alors, les questions, c'était effectivement, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, il y a beaucoup de questions autour des voyages, des personnes.
Comment vous faites pour professionnel. Tous ces avions ?
C'est beaucoup plus virulent. Hein. C'est pas comment on fait pour compenser, c'est comment on fait pour ne pas
arrêter.
Voyager ouais. Et ne pas prendre l'avion. Hein. C'était vraiment une des thématiques fortes.
Et que répondez-vous à ces jeunes ?
On répond que, alors, on est évidemment en pleine transformation aussi, c'est-à-dire qu'on est en train de changer nos pratiques de ce qu'on appelle les travel policy pour évidemment, quand c'est possible, de pouvoir trouver des alternatives. Pour éviter l'avion. Hein. Enfin, on ne prend pas l'avion par gaieté de cœur, hein. C'est souvent une nécessité. On a quand même une entreprise qui est internationale. On se doit d'aller rencontrer nos équipes un peu partout dans le monde. Maintenant, il y a des règles et des règles qui sont de plus en plus présentes pour pouvoir transformer, y aller vraiment quand c'est nécessaire, utiliser le Zoom, on sait bien que ça marche, même si ça c'est limite, ça marche, et puis utiliser le train quand on peut le faire.
En parlant de jeunes, donc, on le rappelle, tu as 3 enfants, quels sont les engagements des tiens ? Qu'est-ce qu'ils font à la maison ? Comment ils te poussent ? Est-ce qu'ils sont inspirés par la RSE ou pas du tout ?
Plus qu'inspirée par la RSE, parce que ma fille aînée, je la prénomme ma Greta.
Elle a quel âge ?
Elle a 16 ans, bientôt 16 ans. Elle est très engagée sur ces thématiques depuis toujours. Donc, je pense que j'ai dû réussir à transmettre, même voir tellement bien transmettre qu'elle est presque dans l'extrême sur un certain nombre de sujets. C'est pas forcément facile à gérer au quotidien, mais c'est très stimulant. Et puis mes jumeaux, mes deux autres, ils sont aussi dans le mouvement. Donc voilà, c'est non. Je pense que j'ai vraiment des 3 jeunes citoyens engagés à la maison et qui nous poussent, par exemple, à évidemment éviter de prendre l'avion pendant les vacances. Et donc,
vous partez en train ou en voiture durant les vacances, c'est ça?
Oui, oui. Et notamment, là, l'été dernier, on est parti, on a découvert la Slovénie. Je peux te dire que ce n'est pas facile pour y aller en train. Hein, ça nécessite un
combien
certain temps. Bah, on a mis 4 heures plus... Enfin, 5 heures de train, parce qu'on a eu des changements en Allemagne à faire, plus après 3 heures de voiture. Bon, mais ce n'est pas grave, c'est faisable. Et puis, en plus, c'est une expérience, parce qu'évidemment, on s'arrête en cours de route. Voilà, on en profite pour visiter autre chose. En fait, finalement, l'expérience et le voyage et les vacances démarrent au départ de la gare de Paris, quoi. Donc, voilà. Et Slovénie reste un très bon... Je ne sais pas si tu connais, d'ailleurs. Mais
je ne connais pas encore.
Voilà. Et ben, je t'engage à y aller parce que, vraiment, c'est un pays formidable avec beaucoup de biodiversité et beaucoup d'engagement.
Et toi, justement, au sein de ton poste actuel chez Moestensi, qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce que tu préfères faire? Les rencontres ou rencontrer des ONG, des partenaires? Qu'est-ce qui te motive? Après ces 15 ans chez Guerlain, on parle de beauté.
Mais c'est très beau, l'univers des vins spiritueux aussi, vraiment. Et on y fait des formidables rencontres. D'abord, j'ai envie de te dire, tu me dis les ONG, et oui, bien sûr, mais aussi en interne. En interne, on a vraiment la chance d'avoir des collaborateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. D'ailleurs, j'y étais, moi, il y a 20 ans, hein, dans cet univers déjà chez Moët et Chandon, et je retrouve des collaborateurs qui ont évidemment bougé un peu de métier, mais qui sont toujours là. Donc, c'est un univers qui est vraiment prenant, passionnant, engageant, stimulant. Donc, les rencontres en interne, déjà, moi, ça me nourrit tous les jours. Et puis après, il y a les rencontres, effectivement, en externe, avec les ONG, de plus en plus aussi avec les institutions. Je trouve ça intéressant, cette dimension politique. Parce qu'on sait aussi qu'on doit agir tous ensemble, hein, pour aller plus vite. Tu te rappelles ce World Living Soils Forum qu'on a organisé début juin,
ouais.
Voilà, sur la thématique des sols, la régénération du sol, où justement on avait invité énormément de parties prenantes différentes, dont des institutions, des gouvernements, des ONG, des étudiants, des scientifiques. La sphère scientifique aussi, elle est très intéressante. Et c'est très important aussi d'avoir des vrais chiffres d'ailleurs et d'avoir des vrais faits scientifiques, même si typiquement sur le climat, c'est comme si ce n'est pas nouveau. Qu'on ait ces faits scientifiques. Hein. Bon, maintenant, c'est bien, on commence tous à les vulgariser, à mieux les comprendre, manifestement.
Mais alors, du coup, entre, on va dire, l'univers viticole et la beauté, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui?
Mais alors, je n'ai pas abandonné
la beauté. Je me maquille toujours.
Voilà, tout à fait. Et tu vois, il y a quelque chose qui nous lie encore, notamment, ce sont les abeilles. Tu sais combien les abeilles étaient importantes
pour la
pollinisation et pour les fleurs et pour Guerlain, hein, puisque c'est vraiment au cœur de l'histoire de Guerlain. Et finalement, les abeilles, elles sont aussi importantes, même si la vigne, par exemple, n'a pas besoin de pollinisation. Mais les abeilles sont importantes pour la biodiversité. Or, c'est un sujet vraiment aussi qu'on est en train de retravailler. Comment remettre de la nature et du vivant dans ces vignobles où parfois il n'y a pas assez de haies, pas assez d'arbres, pas assez de couverts végétaux, etc. Et les abeilles sont capitales et vont nous servir. Donc, tu vois, on a des liens.
Vous êtes liés, voilà. Vous êtes liés avec
exactement.
Les abeilles. Donc, dans ton parcours, je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, tu as dû faire face à un no-go par rapport à un de tes projets, un de tes programmes, à une de tes idées, initiatives. Comment tu réagis? Quelle est ta réaction? Quel conseil tu pourrais partager avec nous?
Non, mais globalement, on me dit oui à tout. Non, je... Alors, j'aimerais bien.
Mais elle a de la chance, Sandrine Sommer, oui. Sans lui dire oui à tout.
Non, pas... Oui, ah bah, bien sûr, bien sûr. Et puis, tu imagines bien que sur un sujet comme celui-là, qui est quand même parfois nouveau, challengeant, parfois il faut y aller en n'ayant pas toutes les billes pour y aller, etc. Donc, oui, des no-go. Moi, j'ai un moteur qui est de ne jamais laisser tomber, en fait. Donc, un no-go veut dire, non pas cette fois-ci, mais il y a des fortes chances qu'on y retourne quand même, et on y retourne un peu différemment, on revoit un peu l'ampleur du projet, un peu le début du projet, un peu le coût du projet. Mais pour moi, il ne faut jamais, jamais, jamais laisser tomber.
Donc,
il faut revenir.
Donc,
un no-go, c'est un non maintenant. Mais donc, c'est pas un no-go forever. Quoi.
Persévérance, c'est ça,
oui.
Ton conseil.
Ah oui,
on vous donne un no-go et bien vous y retournez avec
exactement.
Plus armé. C'est
exactement,
ça
never give up, comme on dit.
Une question également que je pose à mes invités, masculins ou féminins, c'est comment tu arrives à gérer entre ton poste, ton rôle, tes activités, cette vie prenante de businesswoman et ta vie familiale avec ton mari, tes enfants, tes amis. Comment tu arrives à jongler avec les deux? C'est quoi ta recette miracle, si tu en as une?
Oui, je ne sais pas si j'ai une recette miracle et je ne sais pas si je fais le bon équilibre toujours. Hein. Donc, tu sais que voilà, on se pose régulièrement la question, je pense, de savoir si on fait la bonne balance. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est que quand je passe du temps, et j'en passe hein, quand même du temps avec mon mari et mes enfants, je les embarque dans mon sujet professionnel. Tu vois, le week-end, il y a toujours des choses à faire qui ont un lien avec l'engagement. C'est aller à la Fondation Good Planet parce que je trouve ça intéressant et qu'au final, ça intéresse tout le monde. C'est aller à une avant-première sur un prochain film là, qui va sortir, Mission Régénération, parce qu'au final, ça intéresse tout le monde. Donc, je crois que j'arrive aussi à lier les deux parce que finalement, j'ai un sujet qui est à la fois professionnel et à la fois personnel. Donc voilà. Et puis que j'ai évidemment des gens à la maison qui sont plus couverts pour faire leur part, voire plus que leur part.
Alors, tu parles de week-end. Quel est justement ton endroit préféré pour te déconnecter, te ressourcer? Qu'est-ce que tu aimes faire et où aimes-tu aller?
Alors,
à côté de ruches, avec des abeilles, ça revient.
Oui. Alors ça, vraiment, ah ouais, c'est un vrai sujet d'ailleurs. Non, mais ça, c'est quand tu es dans les ruches, Thierry Dufresne te le dirait encore mieux que moi, mais il se passe quelque chose. Bon, enfin, ça ne m'arrive pas tous les jours non plus et tous les week-ends. Paris, je trouve que c'est quand même une formidable ville, hein, qui est juste incroyable. Donc Paris est un bon endroit pour se ressourcer. Et puis après, j'ai mon petit endroit.
Mais où à Paris, en fait?
Sur les quais.
Ah voilà, où on peut retrouver Sandrine Sommer,
oui,
en plein moment de méditation.
Tout à fait, sur les quais, j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas toute seule, hein, donc c'est bien. D'ailleurs, il y a de plus en plus de monde. Et puis après, donc, peut-être un peu plus tranquille. Et j'ai une maison, enfin mon papa a une maison en Vendée. Et donc, c'est un peu mon endroit, en fait, alors, où il n'y a personne l'hiver et du monde l'été, mais les plages sont encore pas du tout bétonisées. Donc, il y a beaucoup de place. Donc, qui est en face de l'île de Ré, voilà, et voir la mer, ce ciel, ses couleurs, mon papa accessoirement, voilà, ça me ressource.
Et un voyage qui t'a ressourcé, qui t'a marqué, où t'as fait de très belles rencontres, où tu t'es évadé, où tu as fait des activités particulières qui t'ont marqué?
Alors, c'est peut-être mes origines qui ressortent, mais l'Italie reste mon pays de prédilection. Les Trois Lacs, notamment, qui est quand même quelque chose de magique, même si je n'ai pas rencontré Georges Clooney, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas vu. donc voilà, et puis j'aime beaucoup manger, donc il se trouve qu'en Italie, c'est quand même...
Ah, on adore.
On adore, voilà. Adore. Puis le slow food, cette élégance à l'italienne, donc voilà, ça c'est un pays où j'aime aller. Et puis, grosso modo, les rencontres avec les Italiens, ça se passe plutôt pas mal. Donc,
tu parles italien?
Mais non, ça, c'est une honte.
Alors, tu leur souris pour
Alors, communiquer. Je leur souris, ça suffit. Ah
je vois. Alors, tu parles de cuisiner, de bien manger. À la maison, quand tu es derrière le fourneau, tu fais quoi?
Alors, je suis absolument nulle, mais nulle en cuisine. Et j'aime pas trop ça. Donc, j'ai une botte secrète.
Tu vas en Italie et tu manges.
C'est ma maman. Mais non, mais ma maman qui me fait toujours, elle cuisine divinement bien et qui amène toujours des petits plats au moment où j'en ai besoin, tu vois, pour fêter les anniversaires, etc. Hop, elle me sauve. Parce que non, je suis pas très bonne. Mais pourtant, j'aime beaucoup manger.
Alors, c'est quoi ton plat préféré?
Eh bien, j'aime beaucoup les pâtes. Enfin, tu vois, ça reste... Mais des bonnes pâtes cuisinées avec à l'huile d'olive. Mais vraiment, une bonne huile d'olive. Et donc, notamment celle du lac de Garde. Bon petit terroir pour une bonne huile d'olive. Ça, c'est juste parfait.
Et en dehors...
Et le chocolat.
Ah, le chocolat.
On va finir
à repasser. Mais oui, mais bien évidemment, qui n'aime pas le chocolat? Chocolat noir, chocolat blanc?
Chocolat au lait.
Chocolat au lait. En dehors, effectivement, de tout ça, donc si tu manges beaucoup, est-ce que tu fais un peu de sport ou pas du tout?
Non, pas assez. Il faudrait que je fasse plus. Oh, je cours, je fais un peu de coaching musculaire. Heureusement, j'ai d'ailleurs une très bonne coach qui vient à la maison régulièrement, mais sinon, pas assez. Après, voilà, il y a un petit problème de temps et c'est malheureusement là où je n'ai pas trouvé une activité qui me tienne régulièrement.
Et pour terminer ce podcast, quelle est ta raison d'être personnelle, Sandrine?
Alors, ma raison d'être personnelle, en fait, c'est la réinvention, on peut dire ça comme ça, des 3 P. Tu connais bien les 3 P en développement durable. Hein.
People, planet,
profit ou prosperity, ça dépend comment on le voit. Mais voilà, ça, c'est les 3 P du développement durable. Et moi, mes 3 P, ce serait passion, persévérance et partage.
On te retrouve où dans les prochains mois, prochaines semaines? Il y a des grands momentum avec justement Moët & Cie.
Alors les grands momentum, eh ben, un peu la suite entre guillemets du World Living Souls Forum. Donc ce film, une avant-première hein, qui va être diffusé le 18 octobre. Mission Régénération, donc c'est la version française de Keith Zagwand. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Vraiment qui explique bien sur l'agroécologie et effectivement la régénération des sols. Et puis les universités de la Terre. Où NC est partenaire des Universités de la Terre le 25 et 26 novembre, où on reparlera à nouveau de la forêt, de la régénération, des pratiques vertueuses.
Eh bien, merci infiniment Sandrine pour justement ce partage, tes expériences et puis tes conseils. Merci infiniment. Et puis nous, on se retrouve très vite dans notre prochain épisode. Au revoir.
Au revoir, Faria, merci.